Alors, je présenterai très brièvement Yves Saint-Omer, qui est professeur à, Paris 8, Paris 8 membre du campus Condorcet, je le rappelle, responsable du master de sciences politiques de cette université. Il a été directeur adjoint du centre Marc Bloch à Berlin à la fin des années 2000. Il a été membre de l'Institut universitaire de France dans les années 2000. Il poursuit depuis de longues années maintenant un travail très important sur la théorie de la représentation politique et de la démocratie dans une perspective globale et sur laquelle, je crois que dans ses différents textes, c'est un aspect important et dans sa vie en général, puisque c'est un homme qui parle et qui voyage, se déplace beaucoup dans le monde, dans une perspective non occidentale. Alors je citerai peut-être pour vous inciter à vous jeter dans les librairies dès que ces deux livres paraîtront dans quelques semaines ou quelques mois, ces deux derniers ouvrages, Démocratie participative et démocratie délibérative, au classique Garnier, et Le spectre de la démocratie, un essai d'histoire globale à la découverte. Et par ailleurs, si vous voulez revenir après cette séance sur la question qui animera ses propos, celle du tirage au sort, il a publié un très important livre sur ce sujet en 2013, auquel vous pouvez revenir. Mais je voudrais, en forme d'introduction à ces travaux, citer deux articles très substantiels qu'il a publiés dans la revue Raison politique, l'un en 2013 et l'autre en 2018. Vous voyez, c'est aussi des articles séparés de plusieurs années qui permettent de traverser son travail avec une durée importante. Et je mentionne ces deux textes très, très remarquables parce qu'ils s'inscrivent dans une perspective très importante pour le campus Condorcet, puisque ces deux textes dans lesquels on constate que l'effort de déchiffrement critique du plus contemporain et de tout ce qui préoccupe et nous préoccupe et préoccupe la science politique dans le monde contemporain du point de vue des formes de l'expression et de la crise de l'expression démocratique, comment il articule ce déchiffrement critique sur la mobilisation des ressources, des temps et des espaces les plus étendus du point de vue historique et du point de vue géographique. Et c'est quelque chose que je voulais signaler parce que c'est une dimension qui est absolument centrale dans le campus Condorcet et son ambition scientifique, d'être sans cesse dans ce rapport entre la confrontation au plus contemporain et la mobilisation de ces vastes ressources que la science historique en particulier peut mettre à la disposition des recherches actuelles. Et je mentionne ces deux textes parce qu'ils compléteront, pour vous, si vous les lisez, et si vous ne les avez pas déjà lus, ils compléteront un exposé qui a choisi un angle d'attaque précis, mais qui est lui-même tout à la fois très ancien et très contemporain, puisqu'on le retrouve dans l'actuelle Convention citoyenne pour le climat, réunie à Paris depuis le 4 octobre, c'est vous dire si on est dans le contemporain, mais on est aussi chez les Grecs, par la tradition, donc de ce qu'est le tirage au sort. Le tirage au sort, comme réponse possible, ou que Yves Saint-Omer interroge comme réponse possible à la crise de la représentation politique. Voilà, c'est donc de cela qu'il va nous entretenir, et j'en suis d'ores et déjà très reconnaissant.
Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Merci au campus Condorcet. Merci à vous d'être présent ce soir. Je viens en quelque sorte en voisin, non seulement parce que j'enseigne à l'université de Paris 8, mais parce que j'habite à Saint-Denis. Et donc, c'est pas très loin. Je passe en vélo régulièrement le long du canal lorsque je vais à Paris. Et je fréquente Aubervilliers à des occasions diverses. Je voudrais partir de cette convention citoyenne pour le climat qu'a déjà évoqué Pierre-Antoine, qui a commencé à se réunir à Paris, qui se réunira jusqu'en janvier, qui est censé émettre une proposition de loi pour faire face aux questions de la transition énergétique. Cette convention est composée, comme vous le savez peut-être, de 150 citoyens qui sont tirés au sort, qui sont rémunérés de façon modeste pour leur participation et défrayés de leur déplacement, qui vont se réunir pendant 6 week-ends où ils vont auditionner des experts, recevoir du matériel informé et contrasté avec des avis différents sur la question, travailler parfois en assemblée générale et parfois en petits groupes. Tout cela organisé par des animateurs de la discussion afin de remettre pas simplement un rapport, mais une proposition qui devrait essayer d'affronter ce défi fondamental du XXIe siècle qu'est la transition écologique. A priori, on pourrait s'en réjouir et notamment les associations écologiques pourraient s'en réjouir. Et pourtant, Greenpeace s'est prononcé de façon extrêmement sceptique devant cette convention, disant qu'on savait déjà comment faire face à la question et que cela n'était qu'une initiative visant à reporter encore un peu plus les décisions les plus urgentes. Extinction Rebellion, qui, vous le savez sans doute, a occupé le centre de Paris pendant quelques jours, a dans son programme une de ses trois revendications et la constitution d'assemblées citoyennes tirées au sort de ce type, mais ne s'est prononcé ni pour ni contre véritablement la convention. Alors les questions que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui, c'est finalement comment comprendre ces doutes au moment où on a l'impression que quelque chose peut déboucher qui n'arrivait pas à se développer jusque-là. Pourquoi Greenpeace est-elle méfiante au-delà des motivations du gouvernement? Est-ce que des mini-publics, on appelle ça dans notre langage technique, ça vient du monde anglo-saxon et aujourd'hui c'est la manière de les appeler, ces microcosmes, ces échantillons représentatifs ou en tout cas diversifiés de la population, sont-ils une réponse face à la crise de la représentation, une réponse réelle ou potentielle, et pour quelle politique et pour quelle société? Alors, ce que je voudrais faire, c'est procéder en plusieurs temps. D'abord, s'interroger sur la crise de la représentation, évoquer très brièvement ce qu'a été le tirage au sort politique dans l'histoire, essayer de montrer qu'il y a eu deux vagues de mini-publics tirés au sort dans les dernières décennies, et puis de m'interroger sur, finalement, pourquoi, dans quel objectif, pour quelle société on est amené à utiliser ces assemblées, ces mini-assemblées de citoyens tirés au sort. Alors tout d'abord, la crise de la représentation politique. Je voudrais partir d'un paradoxe. On l'a encore vu récemment à Hong Kong. Des peuples qui ne connaissent pas la démocratie représentative, nombreux, se mobilisent en la réclamant. Hong Kong, on l'a vu à la télévision, les manifestants demandant le suffrage universel et des élections libres. Et cela s'inscrit dans une longue série de mobilisations dans des régimes non démocratique ou peu démocratique pour demander plus de démocratie électorale. Et en même temps, et là est le paradoxe, dans les vieilles démocraties, on a des mobilisations qui montrent un mécontentement politique presque aussi important, avec des formes de mobilisation qui souvent sont relativement proches, avec parfois aussi des formes de répression qui sont relativement proches. Après tout, la police française a été jusqu'ici plus violente avec les gilets jaunes que n'a été la police hongkongaise avec les manifestants de Hong Kong. Et l'an dernier, au début de l'année 2019, on a bien vu avec cette mobilisation des gilets jaunes combien notre pays était traversé par une crise qui était à la fois sociale, écologique aussi bien sûr, mais aussi profondément politique. Alors on pourrait se dire, finalement, il y a des choses qui sont particulières à la France, et c'est la structure institutionnelle de la France, notamment cette structure extrêmement verticalisée, tournant autour du président de la République, avec un Parlement qui a peu de pouvoir, qui explique l'intensité de cette crise. Et effectivement, en Europe occidentale, on n'a pas eu des gilets jaunes dans tous les pays, loin de là. Et pourtant, en Europe du Sud, d'abord, on a eu tout de même des grosses manifestations, en Espagne, comme en Grèce, et si l'on essaye d'élargir le panorama, on s'aperçoit que cette crise est généralisée à tous les pays qui connaissent des élections libres, régulières, et une compétition de partis pluralistes. Prenez l'Allemagne, un pays central pour l'Europe, dont l'économie va plutôt bien. Quand on demande aux citoyens allemands s'ils font confiance aux responsables politiques pour répondre aux défis du futur, moins de 10%. Des citoyens allemands, c'était un sondage qui datait de 2012, la situation ne s'est pas améliorée depuis, loin de là, moins de 10% ou autour de 10% des citoyens répondent qu'ils ont confiance dans un pays qui va bien économiquement, relativement en tout cas au nôtre et encore plus à l'Europe du Sud. Lorsqu'on prend les deux principaux partis allemands, on voit qu'entre 1990 et 2012, et la tendance a continué ensuite, ils ont perdu la moitié de leurs adhérents. Et si l'on prend les 50 partis politiques les plus importants d'Europe, la tendance est la même, avec des différences, selon les pays plus ou moins accentuées, avec parfois des rebonds. Mais disons, de façon massive, l'évolution est indéniable et est, pourrait-on dire, dramatique du point de vue de l'implantation de masse de partis qui autrefois étaient des canaux de communication fondamentaux entre les décideurs et les citoyens et qui organisaient autour d'eux, à travers les associations, les syndicats, la vie quotidienne de la population. Cela n'est pas limité à l'Europe occidentale, c'est encore pire en Europe orientale. Et regardez l'évolution de la confiance politique aux États-Unis sur le long terme entre 1960 et les années 2010. Alors il y a eu des évolutions contradictoires à certains moments. Quand ils font la guerre du Golfe, la première, et qu'ils la gagnent, ça augmente. Mais la tendance de long terme, là encore, est impressionnante. On passe de 80% de satisfaction à 20%. Et les sondages, comme les élections, montrent que cette insatisfaction est structurelle. Nous avons donc une crise de la représentation qui est une crise structurelle. Ce n'est pas un trou d'air, ce n'est pas spécifique à un pays. Et nous sommes entrés, du coup, dans des eaux dangereuses. Et l'on parle maintenant de la crise, voire du déclin des démocraties libérales, du danger du populisme qui sera affronté dans une autre, qui sera traité dans une autre conférence. Et ce que je voudrais essayer de faire dans ce premier temps, c'est d'abord de s'interroger sur ce que c'est la représentation politique. Après tout, on parle de crise de la représentation politique, on a l'impression de savoir ce que c'est, et en même temps, la question est sans doute plus compliquée qu'elle n'en a l'air. La représentation, vous le savez comme moi, c'est à la fois le fait en politique d'élire des représentants, cette représentation politique, mais il y en a des équivalents dans le droit privé quand on désigne un avocat, mais c'est aussi la représentation dans un sens symbolique. On est dans un théâtre, pensez à une représentation théâtrale, c'est un sens assez profondément différent du mot de représentation. Et en même temps, la représentation politique, du coup, peut aussi être comprise comme le fait de projeter des symboles, des images, des rituels qui contribuent à modifier, à influencer, en tout cas, notre perception de la société. Prenez la Marianne, une affiche du Front National au régional, et puis la Marianne, mais d'une autre manière, la commémoration du 10e anniversaire des émeutes de 2005, à l'évidence, le même symbole, la Marianne, le chapeau, le bonnet de la Marianne, n'a pas la même signification symbolique dans un cas et dans l'autre. Et on peut difficilement concevoir des représentants élus sans cette dimension de représentation symbolique. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que ce qui en français se dit avec un seul mot, celui de représentation, dans la plupart des autres langues non néo-latines, se dit avec des mots différents. Alors, peu importe, j'ai mis un tableau comme ça, ce n'est pas pour le détail, mais pensez que pour bien d'autres peuples, pour bien d'autres langues, on dit différemment la représentation symbolique et la représentation juridico-politique. En quoi cela a-t-il une pertinence? Eh bien, un grand historien allemand du mot représentation, de la notion représentation, a insisté sur le fait qu'avant la notion de représentation, il y avait le mot, et que le mot nous disait des choses sur la représentation comme notion, et que du coup, il nous disait aussi des choses sur la crise de la représentation. En allemand, pensez notamment qu'il y a deux mots pour traduire ce que nous appelons représentation. D'un côté, la Repräsentation, de l'autre côté, la Stellvertretung. Et on retrouve cela dans la plupart des langues d'Europe du Nord, le hollandais, les langues des pays scandinaves. Or, ce qui est intéressant, c'est que en allemand, comme en hollandais, comme en norvégien, quand on parle de démocratie représentative, on utilise de préférence un des mots. La Repräsentation, c'est la représentation symbolique. Et la Stellvertretung, c'est plutôt la représentation à travers un mandat électoral. Les choses sont maintenant plus compliquées, ça s'est mélangé, mais disons, comme sens massif, c'est les deux. Et donc, il est intéressant de penser que, quand on parle de démocratie représentative, dans ces langues d'Europe du Nord, on parle de démocratie représentative moins en pensant à une démocratie où les gens sont élus, qu'à une démocratie où il y a une représentation symbolique d'un certain type. Une manière de représenter dans la politique la société qui est spécifique et qui se retrouve de façon différente dans d'autres sociétés. La démocratie représentative, telle qu'elle s'est instituée dans nos pays, elle est représentative, bien sûr techniquement, parce qu'elle repose sur des élus qui ont été désignés à travers des élections libres, mais aussi parce qu'elle représente une représentation que l'on pourrait dire, une carte que l'on pourrait dire descriptive de la diversité de la nation, à minima les circonscriptions électorales pour la diversité des territoires, et puis la diversité des opinions pour les partis politiques. Et puis quand on compose une liste aux élections municipales, nous allons en avoir des exemples très prochainement, on sait que les dirigeants politiques vont composer la liste en prenant des gens de différents quartiers, de différentes professions, de différents âges, éventuellement de différentes provenances, disons, ethniques ou communautaires. Donc d'un côté, la démocratie représentative permet de représenter de façon diversifiée la société, mais de l'autre côté, elle incarne dans un corps choisi de citoyens, pour reprendre les mots du fondateur de la République américaine, Madison, donc dans un corps choisi de citoyens, les élus, elle incarne la communauté politique, la nation à l'échelle de la France, une commune à l'échelle d'Aubervilliers, qui va avoir le monopole de la définition de l'intérêt général et du coup de la décision. C'est quelque chose de tout à fait spécifique, ce mix entre incarnation dans un groupe d'élus, d'un côté, et représentation de la diversité, de l'autre. Or, aujourd'hui, cette double dimension de la représentation politique, d'un côté, la représentation de la diversité, de l'autre côté, l'incarnation dans un corps, est remise en question. La plupart des citoyens, en tout cas une très grosse majorité des citoyens, pensent que les élus aujourd'hui ne représentent plus bien la diversité de la nation, qu'ils représentent les élites ou qu'ils représentent en tout cas une partie seulement de la diversité sociale. Et de l'autre côté, les citoyens, en tout cas une grosse majorité d'entre eux, pensent que ces élus, plutôt que d'être tournés vers l'intérêt général, quand on les sonde en leur demandant cela, disent non, ils défendent des intérêts particuliers, leurs intérêts de carrière, ceux de leur parti, mais ils ne défendent plus, en tout cas plus suffisamment, l'intérêt général. Donc ces deux dimensions de la représentation politique sont aujourd'hui en crise de légitimité profonde dans nos systèmes politiques, et je le répète, ce n'est pas simplement pour la France. Alors, ces deux dimensions de la représentation élective, qui sont aujourd'hui en crise, sont passibles d'autres combinaisons que celles que nous offre la démocratie élective. Prenons la façon dont le fondateur de l'Assemblée citoyenne, en l'occurrence ici de Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, qui a fourni le modèle à la Convention citoyenne pour le climat qui se réunit à Paris aujourd'hui. Comment décrivait-il ce mécanisme-là? Il disait, nous ajoutons de nouveaux éléments à la démocratie représentative comme à la démocratie directe. Ces nouveaux éléments diffèrent dans les détails, mais ils ont tous une chose en commun. Ils ajoutent au mélange un nouveau type de représentant différent de ceux que nous élisons. Je signale que dans cet État, comme sur beaucoup d'États de la côte ouest de l'Amérique du Nord, il y a la possibilité de faire des référendums d'initiative citoyenne en plus des élections. Donc démocratie directe à travers le référendum d'initiative citoyenne et le référendum tel que nous le connaissons aussi, et puis démocratie représentative, les élections. L'idée de démocratie délibérative consiste essentiellement à introduire l'intérêt public, représenté par des panels aléatoires, en tant que troisième force suffisamment musclée. Des représentants élus traditionnels sont choisis par consensus majoritaire pour une période prolongée en tant que professionnels, avec une compétence illimitée pour agir en notre nom, les nouveaux représentants dont nous parlons sont choisis au hasard pour une courte durée en tant que citoyens ordinaires et pour des objectifs précis et limités. Quel est donc le type de représentativité de ces mini-publics tirés au sort, de ces microcosmes, de ces panels tirés au sort comme la Convention citoyenne pour le climat? Eh bien d'abord, c'est de représenter la société grâce à l'échantillon représentatif d'une façon beaucoup plus fidèle que celle que permettent les élections. Regardons-nous ici, il y a sans doute plus de cheveux blancs que dans la population d'Aubervilliers, il y a aussi d'autres traits qui nous distinguent de la population moyenne de cette ville. Si nous avions ici une salle tirée au sort, et que, contrairement à ce qui se passe dans les conseils citoyens locaux, où les citoyens tirés au sort ne sont pas rémunérés pour participer, alors que les conseillers municipaux le sont quant à eux, eh bien nous aurions une image beaucoup plus représentative de la diversité de la ville. Et cela est important au moment où des millions de personnes, des millions de citoyens à l'échelle de la France se sentent non représentés parce que les dirigeants politiques ne leur ressemblent pas, ne viennent pas des milieux sociaux qu'eux, et du coup ne peuvent pas non plus transmettre l'expérience sociale dont eux-mêmes sont porteurs. Cela était tout à fait manifeste dans le mouvement des Gilets jaunes. Et en même temps, ces mini-publics tirés au sort prétendent incarner l'unité de la communauté. Repensez à la citation que j'ai faite, que je vous ai lue juste auparavant, l'idée que ces citoyens n'ayant pas d'intérêt de carrière à défendre, de parti politique à défendre, ils vont discuter librement en fonction du bien commun, de l'intérêt général, et qu'ils vont pouvoir en cela incarner l'unité de la nation. Donc ces deux publics-là, ces deux dimensions, excusez-moi, des mini-publics, montrent que grâce à une délibération organisée dans des conditions quasiment idéales, une sagesse collective de citoyens ordinaires peut s'exprimer et peut revendiquer à son tour d'être représentative et peut-être, et c'est cela que nous allons voir maintenant, de voir si elle peut répondre à la crise plus générale de la représentation politique. Ce qui est important de noter, c'est que dans cette perspective, dans cette organisation, le consensus joue un rôle important, un consensus total ou assez large, des personnes qui sont rassemblées. Et on peut se demander quelle est la conception du bien commun, de l'intérêt général qui s'exprime dans ce genre de multipublic. Alors, pour le comprendre, je voudrais revenir un instant sur le rôle du tirage au sort dans l'histoire. On l'a oublié. On n'en a pas parlé, ou on en parle très peu dans les livres d'histoire que nous lisons à l'école. Encore aujourd'hui, j'ai vu avec mon fils comment cela occupait une place tout à fait marginale. Mais le tirage au sort a longtemps été, aux côtés de l'élection, l'un des grands moyens républicains ou démocratiques de sélectionner le personnel dirigeant. À Athènes, qui, comme nous le savons, a vu la naissance de la démocratie, dans un sens en tout cas relativement moderne du mot, qui certes avait des exclusions importantes, les femmes, les esclaves, les étrangers, mais qui en même temps a la première théorisé une série d'institutions et de concepts que nous continuons à penser comme démocratiques, utilisait de façon tout à fait centrale le tirage au sort pour désigner l'équivalent du conseil législatif, pour désigner tous les tribunaux et pour diriger 80% des magistrats. Ainsi que, au IVe siècle, avant Jésus-Christ, l'équivalent du Conseil constitutionnel. C'était tout à fait fondamental, seuls 20% des magistrats, donc des dirigeants politiques, étaient élus, et on considérait à l'époque, la citation d'Aristote qui est ici le montre, que les magistratures pouvaient être attribuées par le sort ou par l'élection, mais que quand c'était par le sort, c'était plus démocratique que par l'élection, car le sort permettait une chance égale à tous les citoyens de participer à la gestion des affaires communes. Et il faut noter que cela n'a pas empêché la gloire d'Athènes, puisque c'est à ce moment-là qu'Athènes a connu son apogée dans le monde méditerranéen, tant sur le plan culturel que sur le plan politique. Alors en même temps, cet usage, disons, démocratique radical du tirage au sort n'a pas été le seul usage dont on peut repérer l'existence dans l'histoire. Et en particulier, lorsque le politique a été réinventé dans les communes italiennes, dans les communes françaises du sud de la France, surtout de Suisse, d'Allemagne, au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, c'était un tirage au sort complètement différent qui était utilisé, en tout cas dans la majorité des cas. Regardez comment, à Venise, au moment de l'apogée de sa puissance, on élisait le doge à vie. Lorsque le siège du doge était vacant, le Grand Conseil, environ 1 million de membres à cette époque, se réunit solennellement. Le conseiller le plus jeune sort de la salle de réunion, en revient avec le premier enfant dont l'âge est compris entre 8 et 10 ans, qu'il rencontre dans la rue. Au centre de la salle est placé un grand sac qui contient autant de billes de bois qu'il y a de conseillers. Sur 30 dentelles figure le mot « électeur ». Les conseillers défilent en silence devant l'urne et le ballottino, c'est-à-dire le jeune garçon choisi, tire les billes et en donne une, tour à tour, à chacun d'eux. Les 30 conseillers qui reçoivent une bille électorale restent dans la salle, qui évacuent immédiatement les autres membres. Les conseillers présents peuvent faire partie de la même famille ou avoir des relations consanguines les uns avec les autres. Si c'est le cas, ils doivent renoncer à leur rôle et sont, par le même mécanisme, remplacés par d'autres conseillers. Dans un second temps, les 30 conseillers restants sont réduits à 9 en utilisant le même système. Au troisième tour, les 9 élisent 40 personnes parmi les membres du Grand Conseil par un vote à la majorité qualifiée. Au quatrième tour, les 40 sont réduits à 12 par tirage au sort. Au cinquième, ils élisent 25 personnes. Au sixième, ils sont réduits à 9. Au septième, ils élisent 45 conseillers. Au huitième, ils sont réduits à 11, toujours par tirage au sort. Ils élisent les 41 conseillers qui, grâce à un dixième tour, élisent en conclave le doge avec une majorité qualifiée de 25 voix. On voit bien dans un système aussi complexe, dont les mathématiciens ont aujourd'hui montré que le nombre de tours correspondait, ils ne le savaient pas mathématiquement, mais ils l'avaient sans doute compris pragmatiquement, correspondait exactement à ce qu'il fallait pour éviter au maximum les risques de clientélisme et de corruption qui marquaient autrement l'élection à 1, 2 ou 3 tours. Et cela a eu notamment pour conséquence de diminuer beaucoup l'espérance de vie des doges, car avant, on élisait un doge à vie et du coup, c'était une partie qui l'emportait contre une autre et qui l'emportait pendant longtemps. Et là, du coup, les électeurs ont eu tendance à élire des doges plus vieux, comme ça, ils passaient plus vite dans un autre monde et on pouvait renouveler et que, disons, ce ne soit pas toujours le même parti qui soit au pouvoir. Donc, un usage qui était un usage d'impartialité avant toute chose, qui existait aussi à Athènes, mais qui à Athènes était couplé à une dimension de démocratie radicale, ce qui n'était pas le cas à Venise. Vous avez par ailleurs tous vu des films américains où on a l'équivalent des jurys d'assises, mais qui jouent un rôle fondamentalement plus important aux États-Unis, et puis avec une organisation un petit peu différente des jurys, où le jury, composé de citoyens ordinaires, écoute et puis se prononce sans la présence des juges dans le système américain pour la condamnation, la culpabilité, excusez-moi, ou la non-culpabilité de la personne. Bon, le bilan, c'est que, je voudrais simplement le rappeler, les élections, le tirage au sort ont été combinés dans l'histoire démocratique et républicaine occidentale. Il a fallu attendre en fait les révolutions françaises et américaines pour qu'ils disparaissent assez rapidement de la scène politique. On peut se demander pourquoi et pourquoi il est revenu. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais on peut se demander aussi pourquoi nous élisons aujourd'hui plutôt que de tirer au sort. Après tout, pour les Grecs, pour les Florentins, pour les Vénitiens, il fallait soit tirer au sort, soit combiner tirage au sort et élection. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous reposons-nous de façon presque unique sur l'élection? Alors, je ne m'apesantirai pas sur la réponse à cette question, mais ce que je voudrais présenter maintenant, ce sont les deux vagues d'expériences auxquelles nous avons assisté à l'échelle internationale au cours des 30 dernières années, qui reposent sur des assemblées, des mini-publics tirés au sort, de nouveau, après 2 siècles d'éclipse. Dans la première vague, on peut penser que le tirage au sort était lié très fortement à cette idée de démocratie délibérative, d'organiser une délibération presque idéale au sein d'un mini-public. Cela a commencé comment ? Aux États-Unis, en Allemagne, s'invente de façon parallèle et indépendante ce qu'on a appelé des jurys citoyens, fondés d'une certaine manière sur le modèle des jurys d'assises. On réunit des citoyens ordinaires et ils doivent se prononcer, donner un avis après un week-end, deux week-ends, trois week-ends de travaux, de donner un avis sur un thème public pour lequel le jury a été convoqué. En Allemagne, au Danemark, une variante de cela, dite conférence de consensus, s'organise un peu plus tard sur des sujets techniques et scientifiques. Est-ce qu'il faut introduire et légaliser les OGM, par exemple ? Est-ce qu'il faut réglementer, et si oui, comment, les biotechnologies ? Il s'agit, dans cette perspective-là, dans cette première vague, de construire une sorte d'opinion publique éclairée, qui va être complémentaire à la démocratie représentative. Les décisions continuent d'être prises par les élus, ou par les fonctionnaires, ou par des corps technocratiques, le cas échéant, mais en plus des sondages qui donnent à ces décideurs l'opinion publique non éclairée, les mini-publics tirés au sort permettent d'avoir une opinion publique éclairée dont les citoyens vont ressembler initialement au reste de la population, mais grâce aux discussions, vont pouvoir évoluer dans leurs opinions et donc être plus éclairés, ou en tout cas sont censés l'être. Et il est cependant impressionnant, tous les gens qui ont observé des mini-publics comme ça sont impressionnés par la qualité de la discussion. Je voudrais citer récemment, il y a quelques années, j'avais assisté à une conférence de consensus sur la réforme du système de santé français organisée par une fondation. Et l'un des experts les plus en vue de la question, après avoir été auditionné, avoir discuté avec les citoyens, m'avait dit « Oh là là, c'est incroyable, c'est la meilleure discussion que j'ai eue sur le sujet depuis longtemps. Pourtant, je fais beaucoup de conférences publiques. Mais quand je fais ces conférences auprès de responsables politiques, au bout de 5 minutes, ils pensent au vote qu'ils vont gagner ou perdre si ce que je propose est adopté. Et quand je parle aux professionnels de la santé, ils pensent à leur bourse au bout de 5 minutes. Et là, on a eu une des discussions les plus intéressantes qu'il m'ait été donné d'avoir. Donc, c'est très différent des usages anciens. Les anciens ne connaissaient pas l'échantillon représentatif, celui qui permet à 20 heures de savoir le résultat des élections, alors que les votes n'ont pas encore été dépouillés, celui qui permet d'avoir des statistiques sur le recensement, par exemple. Un échantillon représentatif diversifié de la population, mais ça restait une niche, finalement. On avait ça organisé de temps en temps sur certains sujets. Une opinion publique, on pourrait dire contrefactuelle, comment le peuple pourrait penser s'il était réuni et qu'il pouvait délibérer dans des conditions presque idéales. Un autre concepteur de ces mini-publics, l'Américain Jim Fishkin, décrivait ainsi son dispositif qui pourrait d'une certaine manière être étendu aux autres dispositifs tirés au sort de cette première vague. Prenez un échantillon national représentatif de l'électorat et rassembler ces personnes venues de tout le pays dans un même lieu. Plonger cet échantillon dans le thème en question, avec un matériel informatif soigneusement équilibré, avec des discussions intensives en petits groupes, avec la possibilité d'auditionner des experts et des responsables politiques ayant des opinions opposées, à l'issue de plusieurs jours de travail en face à face, sonder les participants de façon détaillée, le résultat offre une représentation du jugement éclairé du public. Alors que les sondages classiques ne représentent qu'une agrégation statistique d'impressions vagues, formées la plupart du temps sans connaître réellement les argumentaires contradictoires en compétition, les sondages délibératifs veulent permettre de savoir ce que le public penserait s'il avait véritablement l'opportunité d'étudier le sujet débattu. Dans le sondage délibératif, il y a plus de citoyens, 150, 200, 500, 800, et ils sont sondés, ils ne donnent pas un avis. Dans les autres dispositifs, ils donnent un avis, mais la logique, fondamentalement, n'est pas très différente. Quels sont les points communs de ces dispositifs ? Il s'agit donc d'échantillons représentatifs, ou en tout cas diversifiés, ce que la Cour suprême américaine a appelé un échantillon un échantillon, fair cross-section of the people, difficile à traduire. En tout cas, un échantillon diversifié de la population. Quand on a 25 personnes, ou même 150, ce n'est pas représentatif au sens statistique du terme. De façon rigoureuse, c'est plutôt diversifié. Quand on a 800, on peut arriver à une représentativité statistique. Une grande qualité de la délibération de citoyens ordinaires, donc l'incarnation de ce que les anglo-saxons, les allemands, maintenant ici aussi en France, nous appelons la démocratie délibérative, l'idée qu'une décision est d'autant plus légitime qu'elle a été discutée auparavant dans des bonnes conditions par toutes les personnes concernées. Ces mini-publics viennent d'en haut, c'est des autorités qui les convoquent, des autorités légales. Ils sont consultatifs, ils ne sont pas décisionnels. Ce sont en quelque sorte des appellations d'origine contrôlée. Leurs inventeurs les contrôlent étroitement pour vérifier que c'est bien purement fait, qu'il n'y a pas de déviation et qu'il s'agit du dispositif le plus adéquat possible. C'est des événements one-shot. C'est rare qu'une même autorité organise plus de 1, 2, voire 3 au maximum mini-publics de gens. Et puis, ces mini-publics sont en quelque sorte, en tout cas, dès lors qu'on dépasse le niveau micro-local, désencastrés des relations sociales quotidiennes. On prend des gens qui ne se connaissent pas, qui ne partagent pas la même expérience, et c'est précisément dans cet objectif-là qu'on rassemble des gens très différents. Ils ne sont pas, en général, membres de la même association. On peut retrouver un associatif par le jeu du tirage au sort, quelqu'un qui peut être membre d'une organisation politique, mais on n'a pas de groupe de gens qui sont ensemble dans la vie et qui réfléchissent ensuite, mais des groupes qui sont membres d'une communauté politique, mais qui ne se connaissent pas. Et donc, une opinion publique éclairée qui peut y compris différer de l'opinion publique du grand public, car effectivement, la discussion va transformer les opinions, va créer une dynamique qui va porter les gens ailleurs que là où ils étaient lorsqu'ils ont commencé à se réunir. La seconde vague de mini-public. Alors, quand je dis une première vague, une seconde vague, il ne faut pas avoir une vision mécanique qui voit l'une remplacer complètement l'autre. Pensez plutôt à une mer où c'est un peu le bazar, où il y a une vague qui vient, il y a l'autre qui arrive avant qu'elle se soit retirée, comme on l'a dans pas mal de plages de l'océan Atlantique quand c'est un peu mouvementé. En tout cas, en plus de la première vague qui continue, une deuxième vague arrive qui est un petit peu différente, où ces mini-publics se voient dotés, c'est la différence sans doute principale, d'un certain pouvoir, ou en tout cas sont liés de façon beaucoup plus étroite à la prise de décision. L'exemple sans doute le plus important a été celui des conventions constitutionnelles irlandaises sur le mariage pour tous et l'avortement. Vous l'avez peut-être suivi dans la presse, les Irlandais ont, au cours des dernières années, adopté une réforme constitutionnelle qui légalisait le mariage pour tous et ont adopté plus récemment une réforme constitutionnelle qui légalisait l'avortement. Deux thèmes extrêmement importants en général, mais plus particulièrement controversés dans un pays catholique traditionnellement conservateur comme l'Irlande. Les deux amendements constitutionnels avaient été proposés par des assemblées citoyennes majoritairement tirées au sort pour la première, entièrement tirées au sort pour la deuxième, qui ont transmis la proposition de loi au Parlement, qui l'a transmise aux citoyens par référendum, toute modification constitutionnelle devant, en Irlande, passer par référendum. Donc, un processus de révision constitutionnelle sur des questions d'importance très grande concernant des millions de personnes qui passent par une initiative d'assemblée citoyenne. On a une multiplication et surtout une croissance exponentielle du nombre de ces initiatives reposant sur le tirage au sort. Une photo de l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique dont j'ai évoqué les paroles du fondateur quelques minutes auparavant. En Mongolie, le sondage délibératif de Fishkin, qui initialement n'était que consultatif et qui devient obligatoire pour toute révision constitutionnelle, remettant d'une certaine manière un avis avant que les législateurs ne prennent une décision de modification constitutionnelle. En Islande, le pays avait été, après la crise financière, mis à genoux par ses banques et la faillite de ses banques, de ses banques, de et de ses banques, les deux, Et des conventions citoyennes de ce type ont été organisées, qui ont contribué à refonder un consensus sur les bases sur lesquelles reconstruire le pays. De façon assez intéressante, des endroits qui connaissent le référendum d'initiative citoyenne commencent à organiser des panels tirés au sort pour introduire un moment délibératif dans des processus de démocratie directe. Cela a commencé dans l'Oregon, un état de la côte ouest des États-Unis. Cela va se réaliser en Suisse en février pour les votations qui vont se faire au début de l'année prochaine. Et puis en Allemagne, cela a été intéressant car l'Allemagne, après la réunification, a introduit le référendum d'initiative citoyenne dans la plupart des Länder, mais l'a introduit au niveau des municipalités et des Länder, pas au niveau fédéral. Et une association qui se bat pour la démocratie directe au niveau fédéral, plus de démocratie, meilleure démocratie, aujourd'hui propose de coupler ces revendications pour le référendum d'initiative citoyenne à tous les niveaux de la République fédérale, avec des panels tirés au sort, ce que demandait par ailleurs une association, Bürgerrat Demokratie, qui organisait ces panels citoyens, mais découplés de la démocratie directe depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que le parti d'extrême droite, l'AFD, revendique maintenant la démocratie directe, que cela embêtait les initiateurs de cette campagne pour plus de démocratie directe, et que du coup, en la couplant avec un échantillon représentatif permettant de discuter dans des conditions idéales, il pense que cela va marginaliser l'extrême droite de Nantes. Pensez à ce qu'aurait été le référendum sur le Brexit si une assemblée citoyenne du type de celle qui a été organisée en Irlande avait été organisée au Royaume-Uni. Elle n'aurait pas éliminé toutes les fake news, mais peut-être quelqu'un comme Boris Johnson aurait eu plus de mal à prétendre ce qu'il a prétendu au moment de la campagne, peut-être même aurait-il eu plus de mal à tirer au sort pour dire s'il allait être pour ou contre le Brexit, sans même parler du Brexit no deal qu'il défend aujourd'hui. Mais les expériences se multiplient dans des domaines très différents. Je mets de côté les conseils citoyens ou les conseils de quartier qui souvent en France reposent pour partie sur le tirage au sort, car, je l'ai dit, les citoyens n'y sont pas rémunérés, et du coup, nous n'avons pas dans ces instances la même représentativité que nous pouvons constater dans les initiatives auquel je fais allusion. Alors, souvent, au niveau local, on va organiser des jurys tirés au sort pour prendre des décisions. Par exemple, à Berlin, 500 000 euros étaient donnés par quartier pour soutenir des projets proposés par les citoyens ou les associations, une sorte de budget participatif, mais dont les décisions étaient prises à travers des jurys citoyens, pour moitié composés de citoyens tirés au sort et pour moitié de citoyens actifs dans leur quartier. La même chose à Groningen, aux Pays-Bas. Une chose assez similaire en Chine, dans un contexte pourtant complètement différent. Un jury citoyen qui attribue des logements HLM à Salon de Provence en 2014 en disant « sinon, il y a peu de transparence sur l'attribution des logements sociaux ». On le sait moins, mais le Conseil supérieur de la fonction militaire en France, vous savez que les syndicats sont interdits dans l'armée française, et du coup, les soldats sont représentés par un Conseil supérieur de la fonction militaire qui est désigné majoritairement par tirage au sort. Une assemblée, le syndicat des étudiants de l'Université de Lausanne, a décidé de nommer ses représentants par tirage au sort et non pas par élection, parce qu'avant, les jeunesses des partis politiques trustaient la procédure d'élection. On peut même signaler quelque chose qui a eu une grande importance politique, mais qui n'aboutit pas à constituer un mini-public, un microcosme tiré au sort de la cité. C'est une expérience mexicaine. Le parti du président actuel du Mexique, López Obrador, un parti qui s'appelle Morena, a décidé de faire un petit peu comme cela se faisait dans les communes du Moyen-Âge et de la Renaissance, de mixer élections et tirage au sort à tous les niveaux, municipaux, des États fédérés, le Mexique est une fédération, et fédérale. Les cercles du parti ont constitué des listes restreintes de candidats, moitié hommes, moitié femmes, entre lesquels il a ensuite été tiré au sort pour savoir quels étaient celles et ceux qui allait se présenter comme candidat aux élections. Et puis ensuite, évidemment, ce sont les électeurs qui ont choisi parmi les candidats du parti Morena et puis les candidats des autres partis. Et du coup, une partie importante des députés mexicains, des députés des États fédérés mexicains et des conseillers municipaux mexicains sont aujourd'hui des personnes qui ont été désignées à travers cette procédure complexe mêlant tirage au sort et élections, des choses que l'on a vues dans des partis marginaux en France ou en Europe, mais qui là s'est réalisé à une grande échelle et qui, selon les observateurs, a contribué de façon non négligeable au succès énorme de ce parti à toutes les échelles de gouvernement, grâce à l'irruption sur la scène politique de personnes nouvelles, disons un effet Macron, mais pas d'un Macron venant, disons, de cercles de pouvoir préalable, mais un effet, disons, de renouvellement à travers cette procédure. Ce qui est nouveau aussi, c'est que le tirage au sort a été évoqué dans des mouvements sociaux. Il figurait, même si sa place n'était pas aussi proéminente que le référendum d'initiative citoyenne, dans les revendications de nombre de groupes ou de groupes Facebook des Gilets jaunes, dans Nuit debout en France il y a quelques années, dans des mouvements politiques qui ont donné suite aux indignés espagnols. Et dans cette perspective-là, le tirage au sort dans ces groupes militants est conçu, pour reprendre la vieille formule d'Aristote, comme un moyen de démocratiser radicalement la démocratie. Et l'un des philosophes politiques français les plus importants, Jacques Rancière, écrivait « Le scandale de la démocratie et du tirage au sort qui en est l'essence est de révéler que le gouvernement des sociétés ne peut reposer en dernier ressort que sur sa propre contingence ». Donc, si l'on voulait résumer la différence entre les deux vagues, dans la première, on a un complément à la démocratie représentative. Dans la deuxième, elle peut être couplée à la démocratie représentative, mais ils peuvent être aussi couplés à la démocratie participative ou à la démocratie directe. Avant, ça venait d'en haut. Maintenant, ça peut venir d'en haut ou de mouvements citoyens. On a une phase d'hybridation. Les inventeurs ne contrôlent plus le dispositif et les praticiens vont faire leur marché en prenant d'un côté, de l'autre, en adaptant au contexte local, ce qui a favorisé beaucoup la phase d'expansion. On a un début d'institutionnalisation dans une série d'endroits, ce qui fait que le fait de convoquer ces jurys ou ces mini-publics tirés au sort ne dépend plus simplement du bon vouloir des autorités en place et que la capacité de ces mini-publics n'est plus simplement consultative, mais qu'elle est liée plus directement à la prise de décision, et les citoyens, du coup, voient davantage le bout de leurs actes. Dans quelle perspective, finalement, pour revenir dessus, ces jurys et ces mini-publics ont-ils été organisés? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que il y avait eu, au moment du grand débat national, des conventions citoyennes, des conférences citoyennes régionales organisées dans toutes les régions de France dans le cadre du grand débat. Clairement, ces conventions citoyennes faisaient partie de ce que j'ai appelé la première vague, même si elles sont toutes récentes. Elles étaient purement consultatives, elles n'avaient aucun pouvoir décisionnel, n'avaient même pas vraiment de pouvoir de faire des recommandations. Il s'agissait d'un sondage amélioré, d'une opinion publique éclairée à la Fishkin, disons, organisée sans doute aussi en partie pour déplacer le curseur médiatique de ce mouvement des Gilets jaunes à un grand débat qui remettait le président et le gouvernement au centre de la scène. Où situer la Convention pour le climat qui vient de commencer? Il est bien difficile de le dire aujourd'hui, car le président de la République a promis qu'elle pourrait faire une proposition directement au Parlement, voire aux électeurs. Les promesses n'engagent, comme nous le savons, que ceux qui y croient, et il est très difficile aujourd'hui de dire ce qu'il adviendra des propositions de cette convention. Sera-t-elle simplement quelque chose de finalement consultatif, ou aboutira-t-elle davantage à une prise de décision, auquel cas elle se rapprocherait plus de la seconde vague que j'ai évoquée. Alors, Ce qui, par contre, est clair, c'est que le président de la République a accepté d'organiser une conférence citoyenne, mais n'a pas accepté de transformer la Constitution française et de légaliser le référendum d'initiative citoyenne. Pour une raison au moins qui est relativement claire, c'est que dans le cadre d'une convention citoyenne, pour l'instant en tout cas, il maîtrise l'agenda, ce qui ne serait plus le cas dans un référendum d'initiative citoyenne, ni non plus dans le cas de conventions citoyennes de ce type, mais qui seraient convoquées obligatoirement à des moments clés, par exemple de révision constitutionnelle, et auquel cas, de nouveau, le gouvernement perdrait l'initiative de ce type de dispositif. Je voudrais insister cependant sur le fait qu'entre la première et la deuxième vague, et puis à l'intérieur même de la seconde vague que j'ai évoquée, il y a des imaginaires différents de ce que peut être la politique et la société. Dans la première vague, on a un imaginaire qui est celui d'un réaménagement délibératif de la démocratie représentative, dans une société finalement pacifiée ou dont on rêve la pacification. Et l'idée qui a souvent été évoquée, voire mise en pratique, c'était de constituer ces mini-publics éclairés pour prendre de la distance avec l'opinion publique mobilisée, avec la foule dans la rue. Et d'une certaine manière, le grand débat en était un exemple. On opposait la démocratie de la rue, dangereuse, violente et contestatrice, à un grand débat incluant des mini-publics tirés au sort qui permettraient de créer les fondations d'une république de la délibération permanente. Ce premier imaginaire, me semble-t-il, dominait la première vague. Il n'est plus là, en tout cas plus là de la même manière dans la seconde vague. Il a été remplacé par d'autres perspectives, et notamment par l'idée d'une démocratisation profonde de la démocratie. Mais qu'est-ce que là peut vouloir dire? Il y a une idée commune, celle d'avoir, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, un échantillon représentatif de la population qui puisse à la fois décrire la société française ou la communauté politique d'autres échelles dans sa diversité, et puis incarner un groupe qui parle et qui, le cas échéant, propose, voire décide pour le bien commun. Au-delà des élections, voire contre les élections pour certains des mouvements de la seconde vague. Cependant, cette seconde vague est elle-même tendue entre des imaginaires sociaux, me semble-t-il, assez différents. Un deuxième imaginaire qui est présent dans la seconde vague, qui se différencie du premier, c'est l'idée que ces mini-publics délibératifs sont, pour paraphraser une formule célèbre qui avait été utilisée par Engels, sont un peu le gouvernement délibératif des choses. C'est l'idée qu'une fois qu'on s'est débarrassé ou qu'on se sera débarrassé des élites, alors il suffirait de représenter comme une mosaïque, une société fluide dans laquelle les citoyens discuteraient pour le bien commun, et on aurait ainsi, une fois débarrassé les élites ou contre les élites, une société finalement plate, sans clivage, potentiellement consensuelle. Et ce n'est pas un hasard, je crois, si l'on retrouve parmi les initiateurs de ces mini-publics beaucoup de gens qui viennent des nouvelles technologies et qui ont cet idéal d'une société composée uniquement d'individus ou en tout cas de groupes qui ne sont pas organisés ou opposés de façon permanente. Et du coup, la critique est adressée fortement à la démocratie représentative parce qu'elle n'est pas représentative, à la fois de la diversité de la société, et puis elle n'incarne plus le bien commun, mais en même temps une opposition souvent assez virulente aux organisations intermédiaires. Des personnes se sont indignées que cette conférence citoyenne pour le climat puisse avoir lieu dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental, voire contre les mouvements sociaux. Et puis, un troisième imaginaire est encore un peu différent. Il perce, par exemple, dans les mobilisations écologistes radicales d'Extinction Rebellion, qui réclament des assemblées tirées au sort, mais dans une perspective différente. Je vais conclure. L'idée est celle d'une société qui est clivée de façon durable, qui a des oppositions structurelles, qu'il s'agit de représenter à travers des groupes tirés au sort, de représenter de façon équitable et démocratique, et qu'il s'agit de coupler un moment de démocratie délibérative avec ces mini-publics tirés au sort, avec d'autres moments de démocratie radicale, de manifestations, de référendums d'initiative citoyenne, de démocratie directe, de démocratie participative et aussi de démocratie représentative, donc de complexifier la démocratie et de la transformer radicalement pour faire face aux défis du XXIe siècle. Et donc, il me semble que ces trois imaginaires sont présents en même temps, aujourd'hui, dans notre société, dans les expériences qui se font à travers ces mini-publics tirés au sort, et qu'en fonction de la vision politique que l'on a, et de la vision de la société que l'on a, on peut pencher pour l'un, pour l'autre, ou pour le troisième, si l'on pense en tout cas que de telles initiatives sont bienvenues pour faire face à cette crise structurelle que j'évoquais en introduction. Je vous remercie.